Lettre aux Hébreux, chapitre 11. On appelle ça le musée de la foi. Et je vais vous parler de la foi. Surtout les premiers versets seulement. On ne va pas regarder tout ce Louvre, n'est-ce pas, ce musée de la foi, mais on va voir juste les premiers versets. Qu'est-ce que c'est que la foi? Voilà ce qu'il dit, le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est une ferme assurance. Ferme, stable, dure, que rien et personne ne doit nous éloigner. C'est quoi une ferme, hein, quoi? L'assurance. Celui qui croit a la vie. C'est ça l'assurance. Ferme assurance. Hein? Des choses qu'on espère. Le salut de Dieu. Est-ce que nous vivons le salut aujourd'hui? Non, ce n'est pas le salut que nous vivons aujourd'hui. Nous savons que nous sommes sauvés. On vous demande en tant que chrétien, est-ce que tu es sauvé? Tu dis, oui, je suis sauvé. Mais est-ce que tu vis le salut? Non, je ne le vis pas. Mais un jour, j'ai cette ferme assurance que ce que j'espère, je veux le vivre. C'est ça? Et il dit aussi que c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je ne vois pas quelle va être ma vie au paradis, mais j'ai l'assurance que je vais la vivre. C'est ça la foi. C'est quelque chose de merveilleux. Est-ce que tout le monde a la foi? Avez-vous déjà témoigné à des gens? Ah, t'es heureux toi que tu as la foi, moi je ne l'ai pas. Est-ce que vous croyez que tout le monde a la foi? C'est une question que je vous pose. Tout le monde a la foi. Beaucoup ils disent, non, je n'ai pas la foi. Mais ce qui compte, c'est la foi en quoi et en qui? Parce que si on part en vacances, tiens, c'est le moment des vacances, je prends l'avion. En quoi j'ai la foi? Que le pilote va m'amener, que l'avion il va m'amener. Hein? C'est la foi, ça. Voilà, c'est ça, la foi. Tout le monde il l'a, mais la foi, il faut que grandisse. Il faut que s'élargisse. Hein? Et il y a dans Romains, regardez dans Romains, chapitre 4, hein? Il nous a dit, justement, il nous parle d'Abraham. Et mon message, c'est la foi, mais à travers Abraham. On va voir tous les cheminements d'Abraham et on va voir les différentes étapes de la foi. Tout ce qu'Abraham, il a vécu. Tout ce qu'Abraham, il a vécu avec Dieu. Voilà ce qu'il dit. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé en justice. Celui qui a la foi, Dieu, il intervient et lui accorde sa justice. Sa justification. Ce n'est pas que nous sommes justes, mais Dieu, il nous déclare justes. Et quand c'est qu'Abraham, il a été déclaré juste, si vous demandez des gens, même des chrétiens, ils vont dire, hein, il a été déclaré juste lorsqu'il a offert Isaac en sacrifice. Non, ici c'est marqué, lorsqu'il a cru, lorsqu'il a eu la foi. Lorsqu'on a la foi, Dieu, il nous justifie. La foi en qui et en quoi? En Jésus-Christ. Et en ce qu'il a accompli sur la croix. C'est ça, là. Il y avait un missionnaire dans une tribu. Il cherchait comment faire comprendre le mot « foi ». Alors, il réfléchissait. Il était au-dessus d'un bananier, il était assis sur une chaise. Et alors, à un certain moment, il s'est mis sous la chaise. Et il a dit, voilà qu'est-ce que c'est la foi. C'est mettre toute notre confiance sur la chaise, que la chaise ne casse pas. Et la foi, c'est la même chose pour chacun de nous. C'est mettre toute notre croyance en Jésus-Christ et se dire, il peut me soutenir, il peut me diriger. Quoi qu'il m'arrive, j'ai confiance en lui, je continue avec lui, je marcherai avec lui. C'est ça, avoir la foi. Et petit à petit, cette foi, il grandit. Plus on est près de Jésus et plus notre foi, il va grandir. Plus on est près de Jésus et plus Dieu, il va nous confier des tâches. Ne dites pas, je suis chrétien et le Seigneur va me donner des tâches. Non. Plus on est près de lui, plus on le cherche et plus il nous confie des choses. Voilà pourquoi j'aimerais vous parler de cette foi qu'il avait Abraham. Et pour cela, ouvrez vos Bibles dans Genèse. Tous les cheminements, on ne va pas tout lire, mais je vais vous donner le condensé de ce qu'il y a écrit. Et j'aimerais bien, si vous avez un stylo, de prendre note de cela et de regarder ça chez vous. Abraham, il a eu foi en Dieu. Et la première chose qu'on va voir, c'est les étapes de ce cheminement d'Abraham. Le premier cheminement, on le trouve dans Genèse 12. Qu'est-ce que c'est qu'on voit ici? Verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et verset quoi? Il nous a dit, Abraham partit. Abraham, verset 5, il prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous ses biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan, et ils partirent pour aller là où le Seigneur. Ici, on voit l'obéissance de la foi. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham lorsque Dieu lui a dit quelque chose? Il lui a dit, prends toutes tes affaires et va-t'en. Mais je suis bien ici, Seigneur. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mes acquisitions et tout. Et tu me dis d'aller dans un pays étranger que je ne connais pas. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Non, Dieu, il a dit, va-t'en. Prends tout et va-t'en. Réponse d'Abraham, il est parti. L'obéissance. Il y a un verset dans la Bible très important. Il nous a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir à Dieu, c'est ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas de faire des choses, des grandes choses, des petites choses, non. Il nous dit, obéis-moi. Pourquoi? Parce qu'en obéissant à Dieu, on montre notre foi en lui. Notre vie, il ne dépend que de Dieu. Si nous faisons les choses que Dieu nous dit, notre vie sera heureuse. Pourquoi? Parce qu'il est là avec nous. Jésus-Christ, il l'a dit avant de s'en aller, on l'a lu de Matthieu, hein? « Je suis avec vous tous les jours. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors, de quoi devons-nous avoir peur? Nous n'avons qu'à obéir. Et pas de demi-obéissance. Dieu n'en veut pas de demi-obéissance. Il veut juste l'obéissance. Vous vous en souvenez, l'histoire du roi Saül, avec le roi Agag, et les brebis, tout ce qu'il avait. Il a voulu garder tout ça. Samuel, il a dit, tu vas là, tu vas être vainqueur, et tu mets tout, tu enlèves tout, tu vas tuer tout le monde et tous là. Saül, voilà, il a gardé les plus belles brebis, les plus belles chèvres. Et il a dit, il arrive, Samuel a dit, c'est quoi ce bel aimant-là, c'est quoi? Il a dit, oui, j'ai gardé tout ça pour le Seigneur, pour offrir le sacrifice. Qu'est-ce qu'il t'avait dit, le Seigneur? C'est ça que Dieu nous demande. Et pas se dire, oui, mais peut-être les temps, ils ont changé. Non. Lorsque Dieu dit une chose, il faut la faire. Pas écouter ce que d'autres personnes ils peuvent te dire. C'est ça être biblique. C'est suivre la Bible à la lettre. À la lettre. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il nous dit quelque chose, il ne se trompe pas. Et tout ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien. Abraham, l'obéissance, il est parti. Il a pris toute sa famille pour aller dans un pays qu'il ne connaissait même pas. C'est ça, là, l'obéissance de la foi. Si on a la foi, on obéit. On ne se pose pas de questions. L'autre étape de la vie d'Abraham, c'est au verset 6, regardez. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui le lui était apparu. Ça, c'est la foi, l'espérance de la foi. Abraham arrive dans ce pays. Dieu, il lui apparaît encore une fois et il lui dit, le pays dans lequel tu es, je te le donne, il est à toi. Et Abraham, il a cru parce qu'il avait la foi en Dieu et il a offert un sacrifice par rapport à cette espérance. Voilà, le pays dans lequel je suis, il m'appartient. Dieu, il me l'a donné. L'espérance. Qu'est-ce que c'est que Dieu, il nous a promis? La vie éternelle. Une demeure dans le ciel. Et toutes ces choses-là, nous avons cette espérance. Quelle est l'espérance du chrétien? Que le Seigneur revienne, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça notre espérance. Beaucoup de gens, ils attendent la fin du monde. Nous, en tant que chrétiens, nous attendons notre Seigneur. Et c'est avec cette espérance. Et vous savez, si seulement nous avions constamment cette espérance du retour du Seigneur. Parce que vous savez, le Seigneur, il peut revenir à n'importe quel moment. Il peut venir maintenant. La question qui se pose, c'est, sommes-nous prêts à le recevoir? C'est ça notre espérance. Nous attendons quelqu'un de vivant. Nous n'attendons pas la guerre atomique. Nous attendons un Seigneur, un Sauveur qui va venir nous prendre. C'est ça notre espérance. Et Abraham, il avait cette espérance. Voilà, cette terre, tu me l'as donnée, j'y suis. J'y suis. Et il passe encore à une troisième étape, versets 7 et 8. Il dit, il bâtit un autel, il se transporta de là vers la montagne, l'Orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Aï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Ici, on voit que le Seigneur, il lui promet, il a dit, ce territoire, je te le donne, il bâtit un autel. Ensuite, le Seigneur, il lui dit encore, bouge-toi un peu. Il a été jusqu'à Bethel. Il arrive à Bethel, à l'Occident. Il bâtit un hôtel. Il va plus loin, à l'Orient, et il bâtit un hôtel. C'est l'adoration de la foi. Lorsque on a cette foi en Dieu, on n'a qu'un seul sujet dans notre propre cœur, qui est d'adorer. Prosternons-nous, adorons le Seigneur. Car tout ce qu'il nous a promis, il va le faire. C'est ce qu'il a fait, Abraham, constamment. Le Seigneur, il me dit quelque chose. Merci et je t'adore, je te remercie. Combien de fois nous oublions de remercier le Seigneur? Ah, nous sommes bien. C'est facilement que nous demandons au Seigneur, ah, donne-moi ça. Mais dire merci, nous ne mettons pas en pratique ce que nous enseignons à nos enfants. Hein? Lorsque vous baladez avec les enfants, quelqu'un qu'on connaît, il passe, il lui donne un bonbon. L'enfant, il est là. L'enfant est prêt à le prendre. Qu'est-ce qu'on dit? Nous, avec Dieu, nous sommes exactement pareils. Nous aimons recevoir, mais dire merci, non. Vous savez, il y a beaucoup, peut-être on ne commet pas d'autres péchés, mais nous commettons très souvent ce péché de ne pas remercier Dieu. Lui, Abraham, l'adoration. Chaque fois qu'il recevait quelque chose, il disait merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais il y a aussi une autre étape au verset 10 jusqu'au verset 20. On ne va pas tous les lire. Hein. Ici, on voit la déviation de la foi. On peut avoir la foi, mais nous avons en nous cette nature pécheresse et nous tombons dans les péchés. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Au verset 1, nous le disent, il y a eu une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Il n'a pas eu confiance en Dieu. La déviation. Il avait la foi en Dieu, mais il n'a pas cru en Dieu sur cela. Si Dieu nous donne quelque chose, il nous dit quelque chose, il est là pour nous donner la chose et pour que nous puissions vivre la chose qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il y avait la famine et il est parti dans un autre pays. Au lieu de se dire, Dieu, il m'a envoyé ici. S'il m'a envoyé, c'est parce qu'il va me soutenir, il va me donner toutes ces choses-là. C'est la même chose avec Élimélec, vous en souvenez? Cette famille qui habitait Bethléem, la maison du pain. Il y a eu une famine, et qu'est-ce qu'il a fait, cette famille? Élimélec avec Naomi, et il est parti dans un autre endroit. Et qu'est-ce qu'il y avait dans un autre endroit? Il y avait la famine. Exactement la même chose. C'est la déviation de la foi. Oui, on peut dévier de notre foi. Mais Dieu, c'est un Dieu fidèle et juste. Dieu, il le sait. Toutes ces choses-là, Dieu, il les connaît. Il les connaît à l'avance. Voilà pourquoi Jean, il nous a écrit que si nous confessons nos péchés, et pourtant, il dit si nous, il parle des chrétiens. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Parce qu'il savait. Et il y a beaucoup de gens, ah, mais moi, je ne pêche pas. Heureux. Tu es heureux si tu ne pêches pas. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et toi, tu ne veux pas mourir. Ah non, je vais mourir comme tout le monde. Mais alors, tu es pécheur. Alors, tu pêches. La mort, c'est le lot de tous. Parce que tous, on est des pécheurs. Et c'est pour cela qu'on a besoin de Dieu. C'est pour cela qu'on a besoin du sang de Jésus-Christ. Pour que nous puissions être purifié. Mais la déviation d'Abraham, il est parti au lieu de faire confiance à Dieu. Si Dieu m'a mis là, il m'a envoyé ici, c'est qu'il va me donner le moyen de m'en sortir. Des moments difficiles, il va y avoir. Le frère dimanche nous l'a dit. Hein. Oui, il y a des endroits, il y a des églises qui nous promettent le bonheur. Oui, convertis-toi, ta vie va changer. Tu vas être heureux. Tu n'auras plus rien, ni maladie, ni rien. Non, Jésus, il a dit, vous aurez des tribulations. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Ils m'ont persécuté, vous serez persécutés. Vous dites, moi en tant que chrétien, je n'ai jamais été persécuté. Oui, pose-toi les questions, est-ce que tu as été un bon témoin? Parce que lorsqu'on affirme qu'on est chrétien, tout autour de nous, ceux qui ne désirent pas de Dieu, ils vont nous persécuter, ils vont nous haïr. Parce qu'ils vont me dire, Aldo, il n'est pas comme nous là. C'est un extraterrestre. D'ailleurs, lorsque le Seigneur il va revenir nous prendre, ils ne vont plus me voir, va dire Aldo, on ne le voit plus, où il est? Ah, c'est vrai, c'est un extraterrestre, il est rentré là. C'est ça. Si nous proclamons vraiment le nom de Jésus partout, si nous témoignons le nom de Dieu, le nom de Jésus, les gens, ils ne supportent pas. La Bible, il nous le dit, ils ne supportent pas la sainte doctrine. Pourquoi est-ce qu'ils ont haï Jésus? Parce que Jésus il leur montrait leur mauvaise œuvre. Allez dire à quelqu'un, mais il ne faut pas que tu fasses ça. Hein. De quoi tu te mêles, toi? Jésus il leur disait, pharisiens, hypocrites, sépulcres branchis, là. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu l'éliminer. Et ils l'ont éliminé. C'est ça le... la déviation de la foi. Faisons confiance en Dieu. S'il nous amène quelque part, il y a tant de missionnaires qui partent hein, dans des pays où il n'y a rien, ils ne connaissent rien, et pourtant ils sont partis. Comment ils sont partis? Parce qu'ils avaient cette foi en Dieu. Si Dieu m'appelle, si Dieu m'envoie, Dieu va pourvoir. Car ici-bas, nous ne sommes que des passages. Hein. Ne vous faites pas d'illusions. Hein. On est des passages ici. Une autre étape d'Abraham, hein, on le trouve dans le chapitre 14. C'est la guerre des rois, n'est-ce pas? Ils se sont unis, tous ces rois. Ils ont envahi Sodome et Gomorre. Et là, il y avait le neveu de Lot. Et alors, Abraham, il est parti. Il est parti pour délivrer son neveu. Il est parti avec 300 hommes seulement. Il a combattu. C'est le courage de la foi. Il a eu le courage contre 5 rois avec seulement 300 hommes. D'aller et de combattre. Pourquoi? Parce qu'il savait, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Christ est vainqueur, qui va me vaincre? Personne. Et Abraham, il avait cette pensée. Il avait la foi en ce Dieu qui l'a amené là et qu'il allait tout faire. Il savait que Lot... Il avait été fait prisonnier là. Vous demandez à beaucoup de chrétiens qui c'est Lot. Ah, Lot, c'est quelqu'un qui n'avait pas la foi. Il habitait à Sodome et Gomorre. Heureusement que Pierre, il est venu par la suite. Et il nous a dit que Lot, c'était un juste. Il s'est trouvé dans ce milieu-là, mais il avait la peine dans son âme de voir toutes ces choses qui se passent autour de lui. Mais la foi d'Abraham, il a eu le courage. Il y a 5 rois, 10 rois, je m'en fous, j'y vais parce que j'ai le Seigneur avec moi. La foi, je serai vainqueur. Plus que vainqueur, il nous a dit, pour chacun de nous. Et au chapitre 15 aussi, on voit une autre étape de la vie de foi d'Abraham. Hein? Et le Seigneur ici, il lui dit, au verset 1, il lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Avec une promesse comme ça, comment ne pas avancer dans notre vie chrétienne? Je suis ton bouclier. Ton bouclier. Il y a l'histoire des Superman, hein? Vous connaissez un peu tous. Hein? On pouvait les tirer de coups de canon dessus, bah, ils arrivaient, je ne savais plus rien. Le bouclier. Il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux que le bouclier de la foi, il peut éteindre tout, tout, il peut tout éteindre. Et il lui dit à Abraham, je suis ton bouclier. Et Abraham lui dit, mais qu'est-ce que tu vas me donner, Seigneur? Je suis vieux, je n'ai pas d'enfant. Et il a dit, t'inquiète pas, je te promets que tu auras une postérité. D'ailleurs, on connaît l'histoire, n'est-ce pas? Les cheminements de toutes ces choses qui se sont passées. Hein? Abraham, il avait la foi. C'est bien, mais sa femme un peu moins. Elle devenait vieille. Et il a dit, si ça continue comme ça, je vais mourir sans enfant. Et alors, il a voulu donner un coup de main à Dieu. Imaginez-vous, mari et femme, la femme qui va avoir un mari, allez, va coucher avec celle-là. Tu penses, le mari... Il est fautif, hein, lui aussi, on en a parlé mercredi. Hein. Il est fautif, mais tout est dirigé par... Sinon, Abraham, il aurait attendu. Et à cause de ce péché, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ismaël, il est venu au monde. Et Sarah, il a eu un enfant. Qui c'était le fils à Sarah? Isaac. Isaac et Ismaël, d'Ismaël, qui sont les descendants d'Ismaël? Les Arabes. Les descendants d'Isaac, qui sont? Israël. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? C'est ça? Vous voyez à quel point un péché, il peut amener la disgrâce. Tout péché, il va y avoir la conséquence. Tout va être là. Hein? Hein? Et ici, on voit le courage. Et verset 15, comme il nous le dit, hein? Et Abraham, verset 3, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Faut pas, ici, il ne parle pas de la postérité Israël. Hein? Israël, ils sont 6 millions, même pas. Hein? Mais la postérité de tous ceux qui ont fait confiance à Jésus-Christ, à Dieu, telle sera ta postérité, comme on en parlait ce matin, de ceux qui ont le cœur circoncis. C'est ça qu'Abraham, il attendait cela, telle sera ta postérité. Mais il dit, mais je n'ai pas d'enfant, tu me promets une postérité. Mais Dieu le dit, et c'est ça ta postérité. Aie confiance en moi. Tu n'auras pas un enfant, mais tu auras une postérité illimitée. Tu ne me crois pas? Regarde le ciel, compte les étoiles. Est-ce qu'on peut compter les étoiles? Non. C'est ça l'attente de tous ceux qui ont fait confiance à Jésus-Christ, de tous ceux qui honoraient Dieu. C'est ça la postérité d'Abraham. Parce que nous sommes tous des fils d'Abraham par la foi. C'est ça ce qu'il est. Et au verset chapitre 15, une autre étape, c'est le fardeau de la foi. Hein? Verset 8, 7 aussi. L'Éternel lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrais-je que je posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle de chêne colombe. Et la suite jusqu'au verset 20. Voilà pourquoi je vous dis, si vous prenez note et vous lisez tout ça, ici on voit le fardeau de la foi. C'est Dieu qui prend ses fardeaux et il établit une alliance avec Abraham, une alliance éternelle. Hein? Tous ces bestioles-là, ils ont été partagés, ils ont été tués, partagés au milieu, laissés un endroit là, et Dieu, à cette époque-là, faisant alliance, il passait entre les parties des animaux, il partait là. Mais au moment de passer Abraham, il s'est endormi. Qui c'est qui est passé? Il est passé Dieu seulement. Il a fait alliance, une alliance inconditionnelle. C'est-à-dire que c'est Dieu qui pourvoit à toute chose. Je ferai de toi cette postérité. Qui te bénira, il sera béni. Qui te maudira, il sera maudit. Je tiens ces choses-là pour toi. Et c'est lui qui l'a fait. Et Abraham, une fois qu'il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé un autel pour remercier Dieu. Le fardeau, c'est Dieu qui l'a pris. Ce n'est pas une alliance conditionnelle, à condition que... Non, c'est inconditionnel. C'est Dieu qui l'a tout pris sur lui. Qui c'est qui a pris notre fardeau du péché? C'est Jésus-Christ. Pourquoi nous avons cette assurance? Parce qu'il a pris le fardeau de nos péchés sur ses épaules. Abraham, c'est exactement pareil. Il a remercié Dieu de toutes ces choses-là. Et au chapitre 16, il y a la défaillance de la foi. Ah oui, comme je vous ai dit, ils n'ont pas suivi les instructions de Dieu. Abraham, il a couché avec Sarah. Et Sarah, il a pris l'enfant d'Agar, il en a fait son fils. C'est une coutume qu'on faisait à cette époque-là. C'est un peu ce qu'ils font aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment on appelle ça? La PMA, c'est ça. Cette chose-là, ça se faisait déjà. Voilà, une autre femme qui porte l'enfant. Et c'est là, ils ont failli tous les deux. Ils ne croyaient pas. Voilà pourquoi Dieu il est intervenu. Il s'est présenté dans sa tente. Ils étaient 3, n'est-ce pas? Et il écoutait, Sarah, il écoutait aux portes. Et il entendait, tu auras une postérité. Et Sarah a commencé à rire. Alors l'ange lui dit, pourquoi tu as... Ah, mais je n'ai pas le rime. Hein, oui, t'as pas... Il a dit, je te l'ai dit, tu auras une postérité. Car c'est la promesse de Dieu, ça. Dieu ne ment pas. Si on a la foi, tout ce que Dieu dit, la chose, elle va se réaliser. C'est ça la bonté de Dieu. C'est ça la bonté de Dieu. Et il y a aussi l'intercession de la foi. Hein? Dans Genèse 18, vous connaissez tous cette histoire. Dieu, il a regardé Sodome et Gomorre, il a dit, j'en peux plus. Je vais tout les détruire. Je vais envoyer le feu, les soufres. L'intercession de la foi. Abraham, voilà. Tu ne vas pas détruire tout le monde. S'il y en a 50, oui, s'il y en a 50, je vais les épargner. Bon, 50, j'étais un peu trop loin. Hein? 40, ok, s'il y en a 40. Mais 30, 20, 10. Même pas 10 s'il y en avait. Mais Dieu, il est là. Il entend les prières. Et il aimerait satisfaire. Il voulait éviter cela, Sodome et Gomorre. La prière de ceux qui ont la foi. Vous savez qu'on a, par la prière, on peut détourner la colère de Dieu. La prière, c'est une arme que Dieu il a mis dans nos dans nos mains, dans nos bouches, dans nos vies. Voilà pourquoi il dit un chrétien qui ne prie pas, il ne respire pas, il ne vit pas. Parce qu'un chrétien, il doit prier. Il doit prier. Et lui, un homme de foi, il a intercédé pour tous ces gens. Combien de fois devons-nous intercéder pour tous ceux qui encore ne connaissent pas le Seigneur? Et si ce n'est pas nous qui avons la foi, qui voulez-vous qu'il puisse leur annoncer l'Évangile? Je l'ai dit souvent, nous avons été sauvés, pas pour rester assis chez nous et se réjouir, « Ah, ben voilà, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. » Non, on a été sauvés pour servir, pour aller vers les autres. Nous sommes les mains, nous sommes la voix, nous sommes les pieds de Jésus-Christ. Et c'est à cela que nous avons été appelés. Abraham, il a mis en pratique ces choses-là, parce qu'il savait qu'il n'y avait que lui dans cet endroit-là. Voilà pourquoi il a intercédé. Ah, Seigneur, aie pitié de ces gens-là. Il y a aussi, chapitre 21, la rémunération de la foi. Car ceux qui ont la foi, ils seront rémunérés, comme il a été Abraham. Chapitre 21, regardez. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Voilà. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Le mot à tenir ici, c'est au temps fixé. Vous savez, le temps de Dieu, ils sont déjà établis. Dieu, il connaît toutes choses. Et c'est fixé dans Galates. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils. Pas avant, quand ils étaient esclaves en Égypte, non. Quand le peuple criait, il était sous l'esclavage et tout ça. Non, mais lorsque les temps furent accomplis, il y a un temps de toutes ces choses-là. Pendant la grande tribulation, lorsque l'Antichrist il sera ici-bas en train de tuer tous les témoins de Jésus-Christ, il y a les âmes qui sont autour du trône de Dieu. Il faut les lire dans Apocalypse. Je n'invente pas. C'est marqué les âmes de ceux qui ont été tués à cause du témoignage de la parole qui sont autour du trône de grâce, qu'ils crient vers Dieu. Et il leur dit, mais Seigneur, jusqu'à quand tu vas permettre ça? Tu vois cet homme-là qu'il est en train de tuer tous tes témoins. Et Dieu lui dit, encore un peu de temps. Quand le temps, ils sont fixés. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Est-ce que si vous demandez à quelqu'un, qui c'est qui règne aujourd'hui? Il vous dira, c'est Satan qui règne. Non, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui règne. C'est lui qui a disposé toutes choses. Il laisse de la liberté pour voir, pour nous mettre à l'épreuve, pour voir si nous acceptons ce grand amour dont il a manifesté. Ils l'ont dit à Jésus, hein, es-tu venu nous chasser avant le temps? Il savait qu'à un moment donné, le jugement, il va se tomber sur eux. Il a dit, mais ce n'est pas le temps. Il était venu pour nous juger, là. Mais Jésus, nous savons qu'il n'est pas venu pour juger, n'est-ce pas? Pourquoi il est venu, Jésus? Pour sauver. Mais il viendra pour juger. Il viendra pour juger. Car tous, ils doivent mourir. Et après la mort, il nous a dit la Bible, il nous a dit, oh, on aura une autre chance. Hein? Il a dit, après la mort vient le jugement. Tout cela pour vous dire que tout il doit se passer pendant cette vie. C'est à nous de choisir si nous voulons accepter le Seigneur Jésus, si nous avons foi en ce grand Dieu qui nous a tant aimés, ou si nous voulons faire confiance à l'autre côté, au Satan. Mais tout se passe dans cette vie, maintenant. Maintenant. Donc, à chacun de nous de prendre conscience de cela. Parce que toutes ces choses-là, ils nous font recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. On appelle ça la justification. Dieu, il nous rend juste. Ce n'est pas que nous sommes justes, mais il nous rend juste. Je veux vous montrer 4 versets, on va les lire ensuite, on va terminer. Hein, dans Romains, regardez dans Romains, chapitre 3. On est justifié. Quel est le principe de la justification? Romains 3, 24. Ils sont 23, mais car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Tous ont péché. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Le principe de la justification, c'est la grâce. La grâce de Dieu. Nous ne méritions rien. Nous ne pouvons rien faire pour mériter, mais Dieu, il intervient par sa grâce. Comment arriver à cette justification? Comment être justifié? Regardez Romains, chapitre 5, verset 1. Étant donc justifié par la foi, quel est le chemin de la grâce? La foi. La foi en ce que Dieu est, la foi en ce que Jésus est, en foi en ce que Jésus a fait, et la foi en ce que Jésus il fera. C'est par la foi. Par la foi, on est justifié. Les résultats de cette justification, nous avons la paix avec Dieu, parce que nous étions rebelles, nous sommes ennemis de Dieu. Mais par qui nous avons cette paix? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Le chemin de la justification, c'est la foi. Quelle est la cause de cette justification? Toujours dans Romains, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La cause, quelle est? La mort de Christ. Le sang de Jésus-Christ. Sans cela, il ne peut pas y avoir de justification, car c'est ça la cause. Et la source de cette justification, quelle est la source? Chapitre 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est la source, c'est le Seigneur Jésus. Qui il peut nous accuser? Qui il peut nous délivrer? Mais il n'y a que Jésus. La preuve, quelle est la preuve que je suis justifié? Jacques, chapitre 2, verset 18. Comprenez tous ces versets, hein? C'est Jacques 2, verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est la foi, quelle est la preuve de la justification, c'est les œuvres. Si j'ai la foi, si je suis justifié, j'ai fait les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui me sauvent. Travaillez à votre salut. Ce n'est pas que je dois travailler pour être sauvé, mais je dois travailler parce que je suis sauvé. C'est automatique. Si j'aime Dieu, je dois aimer ceux qui sont autour de moi. C'est ça. Aujourd'hui, on entend ça. Ah, moi, j'aime tout le monde. C'est beau, ça. Mais il n'a pas Dieu. L'amour, c'est quelque chose qui donne l'action. Voilà la foi où est-ce qu'il nous amène. Et la foi d'Abraham, c'est cette foi-là que nous devons imiter. D'ailleurs, avec tout ce que Abraham nous a montré, nous savons où est-ce qu'il est Abraham aujourd'hui. Est-ce qu'Abraham, il a reçu ce que Dieu lui avait promis? Il n'a pas reçu cela. Mais lorsqu'il était dans la terre promise, il nous a dit qu'il n'avait rien. Il a dit, mais il avait les yeux fixés sur la Jérusalem céleste. C'est ça, avoir la foi, avoir les yeux fixés sur Dieu, compter sur Dieu, faire confiance à Dieu, ne pas nous laisser dévier de ce que Dieu nous dit. C'est ça, avoir la foi. Abraham, il a eu cette vie. Pourquoi pas nous? Puisque nous savons ce qu'Abraham, il a hérité. Et nous allons hériter la même chose. Que le Seigneur nous bénisse en ces choses-là. Et que nous puissions imiter la foi d'Abraham, afin que nous puissions recevoir aussi ce qu'Abraham a reçu. L'éternité avec Dieu, la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide. Jean-Pierre, tu veux terminer, s'il te plaît.